Remue Ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue Ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour à toutes et à tous, en ce mercredi, Remue Ménage à nouveau sur vos ondes sur Radio Zone 93.8. Nous avons aujourd'hui un menu bien entier qui nous prendra toute notre émission. Cette émission un peu particulière a été réalisée par Odette Mudry et je suis très contente, Odette, que tu aies pu collaborer avec moi. Ça fait bien plaisir de savoir que je ne suis plus toute seule à faire cette émission. Merci mille fois.
Bah, tant mieux, je suis contente d'être là aussi.
Et Odette a décidé de traiter un point qui nous tenait beaucoup, beaucoup à cœur. C'est la présence des femmes pendant la mob, cette mob dont on parle beaucoup parce qu'on le verra peut-être tout à l'heure, c'est en pendant avec un autre événement en Suisse prochainement. Et c'est surtout le sujet d'un livre qui vient de sortir en librairie, publié par les éditions Zoé, 3945, Les femmes et la mob. Alors Odette, je crois que tu as emmené avec toi dans notre studio...
Oui, j'ai emmené un peu d'appoint, Josette Pellet et Lucie Alamand, qui ont, elles, recueilli les témoignages de femmes qu'elles ont été collectées dans divers coins de la Suisse. Donc, elles étaient plusieurs femmes à écrire cet ouvrage sous la direction de Mariana Barbet.
Alors, on en reparle d'ici quelques morceaux. Le premier, tout de suite.
Si c'est vrai que je t'aime encore, tu dois quand même te secouer. Si tu crois que l'amour ça roule sans avoir besoin de pousser, mon cher amour, vois-tu, te trompes. J'ai tellement pris l'habitude de te voir là à mes côtés, que même si tu me réprimandes en me sommant de mieux t'aimer, je me dis que tu fais des scènes. Ne crois pas que si le silence s'installe dans notre maison, le temps se charge d'arranger les désordres de nos mésententes. Pas passer des jours entiers à refuser de nous parler, ne dormons plus ensemble si ça devient routine. Fuyons l'ennui avant qu'il vienne. Si on faisait vraiment l'amour, si on prenait une fois le temps, on n'a plus peur du vide, on n'a pas peur d'être frigide. Ne sois pas si pressé, attends. Ce serait beau si tu étais doux, ce serait beau si on changeait tout. Ce serait beau si tu m'étonnais, ce serait beau si je te surprenais. Nous retrouvons l'envie de rien, mais on a fait un bout de chemin, on a fini de s'entraver.
Thank you. Quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et lui. C'est dans ce coin-là, seul soir, on s'attendait, rempli d'espoir, tous deux, Lily Marlène, tous deux, Lily Dans la nuit sombre, nos corps enlacés ne faisaient qu'une ombre lorsque je t'embrassais. Nous échangions ingénument, joue contre joue, bien des serments, tous deux, Lily Marlène, tous deux, Lily Marlène. Le temps passe vite lorsque l'on est deux. Hélas, on se quitte, voici le couvre-feu. Te souviens-tu de nos regrets lorsqu'il fallait nous séparer? Dis-moi, Lily Marlène. Dis-moi, Lily Marlène.
Dis-moi.
La vieille lanterne s'allume toujours devant la caserne lorsque finit le jour. Mais tout me paraît étranger, aurais-je donc beaucoup changé? Dis-moi, Lily Marlène, dis-moi, Lily Marlène,
dis-moi.
Cette tendre histoire de nos chers 20 ans chante en ma mémoire, malgré les jours, les ans. Il me semble entendre ton pas, et je te fais entre mes bras, Lily, Lily Marlène, Lily, Lily Marlène.
Il me semble entendre ton pas, et je te fais entre mes bras,
Lily. Lily Marlène, Lily, Lily Marlène.
Pour nous mettre dans l'ambiance, nous avons choisi la version française de Lily Marlène, qui est bien connue, chantée par Marlène Dietrich, mais ici c'était Susie Solidor qui chantait dans les années 40 en pleine guerre. Alors, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le sujet d'aujourd'hui, c'est les femmes et la mob. La Suisse, vous le savez bien sûr, est un pays qui a décidé de fêter la mob. La mob, c'est étrange parce que ça veut dire qu'on fête l'entrée en guerre. C'est assez exceptionnel qu'un pays manifeste de la joie à l'idée d'entrer en guerre. On se demande bien d'ailleurs pourquoi la Suisse a tellement envie de fêter cet événement, de fêter cette unité du peuple et des soldats qui ont réussi à sauver le pays de l'invasion, à garantir son indépendance face au nazisme qui menaçait nos frontières. Mais on pourrait peut-être se dire que ce n'est pas tout à fait un hasard qu'on fête cet événement cette année et maintenant. Parce que, par ailleurs, se déroule tout un autre débat autour de la même armée qui nous a sauvé notre indépendance en 1939-45. Cette armée que l'on propose de supprimer dans une initiative qui, vous le savez tous, bien sûr, s'appelle « Pour une Suisse sans armée ». Alors, un hasard ou pas, il semblerait par exemple qu'il n'y avait pas de budget il y a ces mois pour organiser la mob. Eh bien, aujourd'hui, il y en a un. N'est-ce pas simplement une façon de rétorquer à ceux qui lancent ce débat autour de la suppression d'une Suisse sans armée? Ils ont de quoi avoir peur, remarquez, hein, parce que paraît-il, il y a un sondage qui a été effectué. 43% des Suisses âgés de 20 à 29 ans sont favorables à la suppression de l'armée, alors qu'il semblerait que 77% de plus de 60 ans y soient opposés. Donc, ceux qui ont effectivement vécu les événements de la guerre ont tendance à vouloir maintenir l'armée. Et puis, ceux qui ne l'ont pas vécu, ne veulent plus la revivre, très certainement, sont pour la suppression de l'armée. Alors, et les femmes dans tout ça? Que faisaient-elles pendant cette période de 1935 à 1945? Est-ce qu'elles rêvaient à leur mari, leur chéri, leur fiancé qui était sur la frontière en train de protéger leur indépendance? Eh bien, je crois qu'elles ne se contentaient pas de rêver. Elles avaient effectivement pris une place très importante dans la vie de notre pays, n'est-ce pas, Odette?
Absolument. En tout cas, elles ne se sont pas croisées les bras. Et heureusement, aujourd'hui, il y a deux livres qui rappellent ce que les femmes ont fait pendant la mobilisation. Deux livres qui ont été d'abord écrits, le premier qui a été écrit par l'historienne Monique Pavillon, qui s'intitule « Les immobilisés » et qui est paru aux éditions d'En Bas. C'est une vision économique, socio-économique du rôle des femmes pendant la mob. Et il y a un autre livre, celui dont nous allons parler aujourd'hui, qui s'appelle 39-45, Les femmes et la mob, qui est paru aux éditions Zoé et qui est une succession de témoignages recueillis par quatre femmes sous la direction de Mariana Barbet. Alors, pour en parler, aujourd'hui, nous avons à nos côtés Josette Pellet et Lucie Alamand. Donc, avant d'aborder le contenu de ce livre, nous allons peut-être voir un petit peu quelle est la genèse de cette histoire que vous avez eu envie de raconter. Et puis, comment une équipe de femmes s'est réunie autour de cette idée des femmes et de la mobilisation. Lucie.
Nous avons toutes plus ou moins un passé d'écriture, c'est-à-dire que nous avons participé à des ateliers d'écriture avec Mariana Barbet. Et il s'est trouvé qu'à la fin de l'année dernière et au début de cette année, à des titres divers, nous lui avons manifesté notre désir d'utiliser notre plume à des fins plus ou moins professionnelles. Et l'idée est venue ainsi de constituer un atelier de rédaction. Au départ, on ne savait pas trop dans quel but. Ensuite, l'idée a été lancée par Théo Bouchat, qui était alors rédacteur en chef de l'Illustré. de s'occuper des femmes pendant la mob. Ça ne nous a pas vraiment séduites au départ. On a eu beaucoup de réticences à vaincre. Et puis, petit à petit, les témoignages étant recueillis et prenant de l'ampleur, on s'est rendu compte que c'était un sujet absolument passionnant.
Alors finalement, vous êtes partie comme ça aux quatre coins de la Romandie pour rencontrer ces femmes-là. Et elles vous ont parlé avec leur langage. Et vous, vous l'avez retranscrit. Comment est-ce que vous l'avez retranscrit, ce langage ? Est-ce que vous l'avez mis à votre sauce ou vous l'avez rendu tel quel, dans un témoignage brut, avec la vérité de leurs mots, leur simplicité, leur balbutiement ? Comment vous l'avez retranscrit, ces témoignages ?
On a essayé, dans la mesure du possible, de garder vraiment le langage des femmes, surtout leur aspect savoureux, leurs expressions populaires, leur manière de s'exprimer. Mais aussi, on a essayé de rendre ce langage parlé agréable à lire. Ce qui fait que nous avons restructuré ces témoignages et nous avons supprimé les répétitions, tenter vraiment de le rendre lisible et agréable, tout en gardant leur cachet.
Et qu'est-ce qui a guidé le choix de ces femmes-là ? Sur quelle base vous les avez sélectionnées ? Est-ce que vous êtes basé sur un échantillonnage représentatif ?
Tout d'abord, nous sommes partis un peu tous azimuts. Nous cherchions des témoignages forts, c'est-à-dire des femmes qui aient fait quelque chose d'extraordinaire. Et par exemple, moi qui suis de la vallée de Joux, je savais qu'à la vallée de Joux, il y avait des femmes qui avaient aidé des juifs et des gens à passer la frontière. Et j'ai mis un article dans le journal local. Et d'autres de mes collègues ont fait la même chose dans leur région. Et puis par la suite, on s'est rendu compte que ce qu'on voulait faire, ce n'était pas seulement donner la parole à celles qui avaient quelque chose d'extraordinaire à dire, mais aussi voir comment avaient vécu d'autres femmes dans des milieux sociaux très divers, socio-économiques très divers. Et là, nous nous sommes mis vraiment à chercher dans des milieux très particuliers et à trouver des témoignages d'ouvrières, de paysannes, enfin une dame juive, pour avoir, oui, un échantillonnage quand même un peu représentatif.
Alors c'est vrai que dans cet échantillonnage-là, et dans votre livre, on croise des femmes qui misent dans une situation exceptionnelle, c'est-à-dire la guerre, en tout cas la guerre sur nos frontières. Elles ont décidé de se dépasser, de se lancer dans, de courir des risques, en fait, même d'enfreindre la légalité. Et notamment, Josette, vous avez rencontré Amélie Weber. Alors est-ce que vous pouvez nous la situer un petit peu, cette Amélie Weber ?
Amélie Weber, c'est une vieille dame de 81 ans, très vive, très alerte, très chaleureuse aussi. Elle a eu quatre enfants, dont un est mort pendant la mobilisation, justement. Son mari, sa particularité, c'est que son mari a peu fait de mobilisation, mais il s'occupait du jardin, de maraîchage, etc. Tandis qu'elle s'occupait d'un bistrot qui s'appelait La Guinguette. Et la particularité de La Guinguette, c'était d'être située en zone militaire, sur le plateau de Vessy, sur la route de Verrier, et donc tout près de la frontière. Et il y avait un barrage militaire juste devant le restaurant de Madame Weber.
Alors pour Remue Ménage, j'ai voulu recueillir justement le témoignage de cette Amélie Weber, un témoignage qu'on pourra saisir dans son côté savoureux avec ses expressions typiques. Et à Madame Weber, je lui ai demandé si ça lui avait été naturel d'aider les réfugiés.
Oh oui, alors, tout ce qui arrivait, je les recevais bien, je leur donnais à manger, à boire, et je m'occupais d'eux, je leur faisais voir où ils pouvaient aller, où ils devaient aller, pour pas se faire refouler, parce que deux jeunes gens, je les ai fait aller à Verrier, mais comme ici on était zone militaire, alors ils sont allés à Verrier, et on les a refoulés. Ça m'a tellement fait mal au cœur, j'ai dit alors maintenant, fini, ça je fais plus. Je les prenais, je leur donnais tout ce que je pouvais leur donner. Et puis je les conduisais à Carouge, où là, ils étaient plus en zone militaire, alors on les mettait dans des camps.
Il y a beaucoup de Juifs qui ont transité chez vous dans votre café ?
Oh, je pense une dizaine, une douzaine, comme ça. Il y en a qui m'ont fait vraiment mal au cœur, qui étaient vraiment à bout, parce qu'ils venaient déjà de très loin, à pied. J'ai eu une fois une juive qui était couchée au pavillon. Elle était Elle avait voyagé toute la nuit, elle était tellement fatiguée, tellement fatiguée. Puis ma jeune fille, en se levant, elle me dit, en ouvrant les volets, elle me dit, quelle horreur, il y a quelqu'un de couché au pavillon. Je vais vite voir, c'était une pauvre femme qui pouvait avoir 35-40 ans, quelque chose comme ça. Elle était exténuée, alors je l'ai bien fait déjeuner, j'ai bien restauré. Elle avait des souliers tellement épouvantables usés, on avait le même pied. Moi, j'avais pas grand-chose, mais je lui ai quand même donné ma paire de souliers pour qu'elle puisse aller plus loin, parce qu'elle devait se rendre à Fribourg, dans un couvent. Elle m'a montré l'adresse. Et puis, elle me dit, « Mais je peux vous payer, madame, je peux vous payer, vous savez. » Elle me sort un mouchoir plein de bijoux. Ah, j'ai dit non, alors ça, jamais, pas un sou de ceux qui passent. Ah non, alors ça, je veux pas. Vous les garderez, peut-être que ça fera plaisir là-bas où vous allez. Mais moi, je le fais par bonté, par humanité, mais pas pour de l'argent. Alors, c'était terrible de les voir comme ça. Il y en a un qui me disait, mais je suis catholique, moi, je suis pas juif. J'ai marié une catholique. Et puis, j'ai une petite fille. Et ma femme m'a dit, si tu ne reviens pas, si je n'ai pas tes nouvelles, je la tue. Puis je le ferai, madame. Je la tuerai. Ça, c'était horrible. Alors, à ce moment-là, bon, ben, je l'ai restauré. Lui, il n'a pas voulu manger. Il était tellement exténué, il ne voulait rien manger. Je lui ai donné à boire du café, un peu de gnoul, comme on disait à l'époque. Et puis je lui ai dit, si vous entendez du bruit, vous descendez vite à la cave. Parce que si le gendarme arrive ici, il va vous refouler. Comme ça, je ne veux pas. Alors il est descendu à la cave quand on a entendu arriver quelqu'un. Il est vite descendu à la cave, mais malheureusement, j'avais 3000 litres de vin qui fermentaient à la cave. Alors j'ai dit, le pauvre, il ne faut pas que je le laisse longtemps là-bas. Puis le gendarme n'avait pas du tout l'intention de s'en aller tout de suite. Ma foi, j'ai supplié le gendarme, j'ai fait quoi, tout ce que j'ai pu. Je lui ai raconté des tas de blagues, des tas d'histoires.
Qu'est-ce que vous racontiez comme blague au gendarme pour qu'il s'en aille?
Mais j'ai dit un tas de bêtises. J'ai attrapé le gendarme, puis je lui ai dit, mais est-ce que vous m'aimez un peu, vous? Puis il me dit, oui, beaucoup. J'ai dit, ben, fichez le camp. Ah, ben, il me dit, ben, c'est gentil, ça. J'ai dit, mais vous, il partez. Mais qu'est-ce qui vous prend? Non, je veux boire un verre. J'ai dit, vous viendrez demain, je vous raconterai ce que j'ai. Ah non, 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 non. J'ai dit, mais vous voyez pas que j'avais eu ma petite malade, puis je l'avais mis dans un canapé à la cuisine. J'ai dit, vous voyez pas que j'attends quelqu'un, le lit est prêt, là. Oh, il était fâché. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Vous, chez vous, Madame Webb, j'aurais jamais cru ça. J'ai dit, il faut vous attendre à beaucoup de choses. Puis voilà.
Vous voulez lui faire croire que vous attendiez un amant?
C'était peut-être un peu bête, mais c'était la façon de le faire partir. Autrement, il serait resté. Puis j'avais trop peur avec le juif qui était à la cave avec ses 3000 litres de vin qui fermentaient. J'ai dit, mais il va tourner de l'œil là-bas en bas. Alors voilà, puis le lendemain, le gendarme est venu, puis il m'a dit, vous me dites maintenant? J'ai dit, oh, c'est pas nécessaire, pas nécessaire de savoir. Oui, 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 vous m'avez promis, je veux savoir. J'ai dit, ben, j'avais un juif à la cave. Ouh, alors il a passé au moins pendant 8 jours là, il s'arrêtait plus, il faisait la tête.
Et les femmes ici, dans le quartier de Verrier à l'époque, est-ce qu'elles s'impliquaient autant que vous dans l'aide aux réfugiés?
Ben, vous savez, on est bien en dehors du village. Alors, vraiment au village, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je crois quand même. Il y a la belle-mère d'un gendarme qui s'est fait gronder par les soldats parce qu'elle avait jeté du pain de l'autre côté de la frontière aux gosses qui avaient faim. Alors je crois que tout le monde a fait, par ici, tout le monde a fait son possible. Il y en a beaucoup qui ont reçu des juifs.
Et aujourd'hui, on refoule des Turcs, on refoule d'autres réfugiés. Est-ce que ça vous semble normal?
C'est-à-dire que c'est une très grande échelle maintenant. Et je crois que ça doit être difficile d'arriver à faire pour tout le monde. Mais qu'on les refoule tous, non, je ne suis pas d'accord.
Alors, comme le témoignage d'Amélie Weber, si par hasard, parmi nos auditrices, se trouvaient des femmes qui ont vécu ces événements entre 1939 et 1945, Alors qu'elle n'hésite pas une seconde et qu'elle nous téléphone pendant notre émission au 50 40 51 41, je répète 50 40 51 41, 023 si vous appelez depuis Genève, 00 33 si vous appelez depuis ailleurs en Suisse romande.
Cafard de rengaine que chante un clochard sur le toit d'une vieille maison. Un oiseau chante aussi sa chanson. Le ciel porte ses rêves d'azur sur les portes et sur les vieux murs. C'est un coin romantique et fané, mais c'est là que notre amour est né. C'est la rue de notre amour, tout au fond d'un vieux faubourg. On y voit rôder le soir les amoureux dans les coins noirs. C'est la rue de nos désirs, où l'amour a su fleurir. Tout au fond d'un vieux faubourg, c'est la ruelle des cœurs. Nous aimons toujours, toujours la rue de notre amour. Elle est belle quand le ciel est bleu, elle est belle même quand il pleut, mais le jour où l'on s'est rencontré, le soleil avait tout éclairé. Ce jour même, c'est toi qui m'as dit, je vous aime. C'est pourquoi depuis, nous n'avons qu'un logis pour nous deux, dans la rue de nos premiers aveux.
Avec le témoignage d'Amélie Weber, on vient de découvrir une femme qui a effectivement pris des risques. Et vous, Lucie, est-ce que vous avez rencontré que des femmes extraordinaires ou est-ce qu'il y a eu des destins plus ordinaires pendant la mobilisation ?
Non, j'ai rencontré des mères de famille dont l'une était obligée, par exemple, de travailler comme femme de ménage pour gagner la vie et de quoi faire vivre la famille. J'ai rencontré une femme qui vivait en France pendant la guerre et dont le premier souci était de faire aussi survivre à tout point de vue sa famille, aussi bien au point de vue matériel qu'au point de vue moral. J'ai rencontré aussi deux infirmières dont l'une a été, a été engagée dans l'armée pendant la mob et l'autre était religieuse, donc dans son couvent. Et puis une autre femme qui a travaillé au CICR, une partie de la mob.
Alors cette femme, justement, c'est assez étrange parce qu'à un moment donné, elle s'est mariée pendant la mobilisation et elle a quitté son travail au CICR et elle a quitté la ville pour se replier à la campagne avec ses enfants qu'elle a eus les deux dernières années de la mob. Et on se rend compte que ce repli obligatoire, ça lui a profondément déplu. Elle dit dans le témoignage que vous avez recueilli, mais quand nous sommes retrouvés, mon mari et moi, avec deux petits-enfants à la fin de la mobilisation, quelle panique! Il a fallu tout apprendre en même temps, vivre ensemble, éduquer les enfants, préparer les repas. Mon mari travaillait, il fallait que tout soit prêt à midi. Cela a été la période la plus fatigante et la plus angoissante de ma vie de mère de famille. Donc on se rend compte que les femmes, elles vivaient des choses beaucoup plus excitantes, plus intense pendant la mobilisation que lorsque leur mari était de retour.
C'est-à-dire que dans le cas dont on parle ici, elle a été coupée de sa vie antérieure en devant aller habiter à la campagne parce que c'était une décision qui avait été prise. Elle s'est trouvée perdue à la campagne. Donc c'était une vie qu'elle avait dû apprendre toute seule parce que son mari était absent. Et quand son mari est revenu, elle a dû apprendre de nouveau une autre vie à vivre avec son mari une vie de famille complète, c'est une chose qu'elle n'avait jamais connue. Quant à dire que c'était excitant, j'irais peut-être pas jusque-là, je dirais plutôt que pour elle, et c'est ce qui m'apparaît pour l'ensemble des femmes que j'ai rencontrées, en tout cas des mères de famille, c'est que c'était d'abord une question de survie, et c'était parfois très très lourd et très difficile.
Mais on a l'impression que les femmes, sans, pour certaines, sans leurs hommes, elles avaient une identité propre, elles avaient une certaine indépendance, alors que lorsque les hommes étaient de retour... Cela leur faisait un peu de l'ombre. Je pense, Josette, par exemple, au témoignage que tu as recueilli de Edith Rocha, cette paysanne de la vallée de Joux.
Oui, tout à fait. Edith Rocha s'est retrouvée seule avec son train de campagne. Alors, d'une part, c'était très difficile pour elle parce qu'il y a des tas de choses qu'elle ne savait pas faire, comme traire les vaches. Elle a dû apprendre. Elle avait des problèmes de recrutement de personnel pour l'aider à la ferme. Mais alors, d'un autre côté, elle pouvait enfin trouver une place. Elle me disait, oui, quand mon mari est rentré, bon, j'étais contente dans un sens, mais j'ai eu moins de place que lorsqu'il était absent. Et pour elle, elle a vécu, je crois, cette période quand même de manière assez intense. Elle parle toujours qu'elle était seule avec ses bêtes et elle aimait tellement ses bêtes. Et c'était un témoignage très fort.
Et pour d'autres femmes, c'était même une parenthèse amusante. Je pense à André Gaillard, Josette, que tu as aussi, dont tu as aussi recueilli le témoignage, qui disait « Je n'ai jamais autant dansé que pendant la mob ».
Oui, ça c'était une femme qui avait une histoire très drôle à raconter, effectivement. Bon, elle était très jeune au début de la mob. Et effectivement, quand je lui ai dit « Mais quel est le souvenir le plus fort que vous ayez de cette période ?» Elle m'a dit « Mais moi, j'ai jamais autant dansé. » Et en fait, elle a traversé la mob en dansant, quoi.
Mais c'est rigolo d'ailleurs, parce que la chanson qu'on vient d'entendre, chantée par Damien, elle, c'est une chanson d'amour, comme si les femmes n'avaient que le temps de chanter l'amour à ce moment-là. Et c'est vrai qu'en choisissant les musiques pour illustrer notre émission d'aujourd'hui, je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de chansons complètement gays. Les gens, visiblement, les gens cherchaient soit à oublier, soit faisaient réellement autre chose que la guerre, dans leur tête en tout cas, et dans leur quotidien le plus proche, le plus intime.
En tout cas, Amélie Weber, que l'on vient d'entendre, elle aussi, elle termine son témoignage en disant « c'était le bon temps ».
Évidemment, c'était le bon temps, je pouvais me remuer, parce que maintenant j'ai de l'arthrose partout. Alors j'arrive plus, il me faut des cannes, je peux plus faire, quoi. J'ai tenu autant que j'ai pu au café, c'est-à-dire 40 ans, et puis voilà.
Mais c'était aussi une période où vous avez vécu d'une manière particulièrement intense aussi.
Ah ben oui, il fallait être partout, il fallait aller de tous les côtés, il fallait que je fasse mes approvisionnements. Enfin, j'avais un vélomoteur, j'ai tout fait comme ça avec le vélomoteur, on n'avait plus pas de voiture, on n'avait rien. Alors, aller et venir tout le temps, chercher, charger, et puis m'occuper des gosses, il fallait courir tout le temps. Puis les soldats, oui, bien sûr, il y avait les soldats, il y avait un barrage, et puis il y avait les soldats qui logeaient juste à côté de chez nous. Alors ils venaient manger, il fallait leur faire les repas. On était payés tellement chichement, il fallait vraiment qu'on ait, nous, le jardin, les choses, pour arriver à leur faire des repas bons, des bons repas.
Pendant la guerre, vous aviez le sentiment d'être bien défendu, vous aviez le sentiment d'être en sécurité?
Oui, je crois. Je crois qu'on se sentait quand même encadré, que les hommes étaient là quand même pour... Bon, on a eu peur un moment, quand ça allait très mal, on a eu peur d'une invasion. Et là, on avait vraiment le sentiment que les hommes nous veillaient sur nous, aux frontières. C'était peut-être faux. Moi, j'ai eu très fort ce sentiment en disant « Mais oui, nos hommes sont là, ils feront ce qu'il y a à faire. Si Hitler veut passer, ben, on a le temps de voir. »
Mais vous étiez bien informée de ce qui se passait?
Ben, par les soldats qui étaient là autour de nous. Une fois, il y en a un qui m'a appelé, m'a dit « Voyez ce qu'on vient de recevoir. » Ils avaient reçu des tas de munitions. Il a dit « Ma femme, méfiez-vous. » C'est là où il m'avait dit de préparer des affaires pour partir, parce que vraiment, les nouvelles n'étaient pas bonnes.
En novembre prochain, le peuple est appelé à se prononcer pour ou contre l'armée. Une Suisse sans armée, est-ce que pour vous c'est concevable ?
Non. Non. Il faut une armée. Il faut une armée, mais pas une armée qui attaque. Une armée pour défendre le pays et puis défendre son foyer. Moi, je crois, j'y vois comme ça, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est nécessaire d'avoir peut-être pas d'une grande armée, puis surtout pas autant de dépenses qu'ils font. Alors ça me choque, toutes les dépenses qu'ils font. Mais autrement, il faut quand même une armée.
On vient d'évoquer le problème de l'information des femmes pendant la MOM. Est-ce qu'elles lisaient les journaux? Est-ce qu'elles écoutaient la radio? Est-ce qu'elles se tenaient au courant des décisions stratégiques que le gouvernement prenait? Ou est-ce qu'elles avaient seulement les informations par la bande, par leur mari, leur frère ou leur père qui rentraient du front, entre guillemets?
Je pense que dans l'ensemble, elles avaient relativement peu d'informations, c'est-à-dire que ça leur venait effectivement plutôt de leur mari ou de la famille. Elles avaient des bribes d'informations. Elles écoutaient de temps en temps la radio quand elles en avaient une, mais ça n'était pas toujours le cas. De temps en temps, elles avaient le journal. Ça me fait penser à la religieuse que j'ai rencontrée, qui raconte de façon savoureuse qu'une seule sœur, la supérieure de la communauté, avait le journal plié en 4 ou 6 dans sa poche et qu'elle transmettait les nouvelles qu'elle jugeait, elle, nécessaires. Voilà, ça s'arrêtait là. Et à partir de là, il me semble qu'elles ont interprété un petit peu les informations qu'elles recevaient par bribes et morceaux. Par contre, la dame qui a vécu la guerre en France, elle avait plus d'informations dans le sens où elle était sur le territoire de la guerre, d'une part, et d'autre part, comme elle se tenait elle-même informée avec son mari et sa famille, ils avaient des rencontres et des contacts avec soit des gens de la résistance, soit des gens qui s'étaient engagés d'une manière ou d'une autre. Alors elle était un peu mieux informée.
Mais est-ce que d'une manière générale, on peut dire que les femmes, elles étaient un peu dépassées par l'histoire dans laquelle elles étaient plongées ?
Moi, je pense que le problème d'information, c'était un point délicat. Je me demande dans quelle mesure les femmes d'aujourd'hui, ces mêmes femmes aujourd'hui, ne disent pas qu'elles étaient mal informées par une espèce de mauvaise conscience d'avoir su qu'il se passait des choses quand même assez moches autour d'elles et de ne pas s'être penchées davantage à l'époque sur la question.
Sur ce qui arrivait aux Juifs, par exemple.
Sur ce qui arrivait aux Juifs, par exemple. Mais bon, moi, j'ai eu quelques dames qui étaient relativement bien informées. La passeuse, justement, qui, elle, faisait les passages France-Suisse et qui a passé des Juifs, notamment. Et deux dames SCF, dont une travaillait avec le colonel Guizan. Alors, évidemment, elle était au courant de tous les mouvements militaires.
Mais d'ailleurs, Yvette Scragen, dans un livre qu'elle a écrit, évoque aussi cette capacité de ne pas lire ce qui était écrit dans les journaux. Elle
Tout
dit quand
fait.
Elle s'est repenchée sur les journaux de la Suisse de cette époque, elle a constaté qu'en fait, elle aurait pu savoir ce qui se
Tout
passait.
Tout à fait. C'est une espèce de blackout que les femmes se sont mises pour pouvoir arriver à mieux vivre cette période, probablement.
Thank you.
De terre, tout ça, fallait buter les pommes de terre.
Vous êtes toujours sur Europe Ménage, Radio Zone 93.8, et nous vous rappelons que nous parlons des femmes pendant la mob, en compagnie de Lucie Alamand et de Josette
Pellet,
pardon, excusez-moi de ne pas savoir ton famille. Et tout ça orchestré par Odette Mudry, qui a, j'ai la chance qu'elle nous ait organisé cette rencontre pour cet après-midi. Et nous vous rappelons aussi que si vous voulez nous transmettre un de vos témoignages en direct, puisque nous parlons de beaucoup de témoignages recueillis par Lucie et par Josette, mais si vous en avez encore un à rajouter, n'hésitez pas à téléphoner au 50 40 51 41 023 depuis Genève ou 00 33 depuis le reste de la Suisse.
Josette et Lucie, vous avez rencontré près de 25 femmes. En tout cas, vous avez retranscrit 25 témoignages. Parmi ces femmes, est-ce que vous avez eu le sentiment, ou elles vous ont donné le sentiment, qu'elles avaient joué un rôle important pendant la mobilisation ?
Moi, personnellement, je n'ai pas rencontré de femmes qui aient exprimé ce point de vue-là, non. Elles ont certainement vécu quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire hors de leur ordinaire. Mais non, je ne crois pas qu'elles ont eu l'impression de vivre quelque chose de très important et d'avoir eu un rôle très très important.
Il me semble pour ma part qu'elles ont dû faire face. Au fond, c'est ça qui ressort peut-être, et c'est ce qui fait leur force. C'est qu'elles ont fait face à une situation qui leur était complètement étrangère. Et Dieu sait que c'est assez ressorti dans leurs témoignages. Et elles ont été dépassées et elles ont tâché de faire durer des choses qui existaient, effectivement. Mais oui, elles n'ont pas pris beaucoup de conscience.
Alors, sur cette même question de l'importance du rôle de la femme, je l'ai posée à Amélie Weber et elle est assez proche de ce que vous venez de dire.
Ah oui, en tout cas dans l'agriculture, il fallait aider, il fallait faire beaucoup. Je me rappelle, nous, on avait la vigne, les pommes de terre, tout ça, il fallait buter les pommes de terre. On n'a pas trouvé de cheval, alors il fallait se débrouiller par soi-même. Mon mari avait...